Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的某家。Hollywood star Mika Perucki Lucerini,
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Salomé Vio et Christophe Payet, réalisée par Doria Zénine et mise en onde par Vincent René. On va poursuivre notre série dédiée à la montagne, de l'Himalaya au Caucase, la montagne objet de convoitise. C'était le titre de cette série de cette semaine. On commençait hier avec justement le Caucase, mais aussi le Cachemire, des frontières et des guerres. Nous parlerons demain des cimes des dieux, après-demain jeudi de Sochi, où comme ailleurs, c'est la ruée vers l'or blanc qui prédomine. Mais pour ce deuxième volet de notre série consacrée aux montagnes, on va s'intéresser au tourisme des neiges dans le monde. Qui pratique les activités de montagne? Comment? Ces sports sont-ils réservés à une élite? Où se démocratisent-ils? Parfois, c'est un tourisme sans grand risque. Et d'autres fois, le risque en est peut-être une des motivations. C'est le cas de l'alpinisme, par exemple.
Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world, and they named it Everest.
Ici, l'air est raréfié, les gestes sont lourds et lents, et la température tombe à moins 50. Pendant ce temps, une cordée britannique tente l'ascension de l'Everest, le toit du monde, à 7000 mètres d'altitude.
Ici Campbell, bravo Jean, bravo Jean, bravo!
When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity.
L'himalayisme ultra-léger d'aujourd'hui n'existait pas encore. Les expéditions exigeaient des moyens considérables.
200 porteurs, 12 tonnes de matériel, etc., etc. Or, pendant cette marche d'un mois, il n'y a pas que les 15 types qui marchent et qui mangent, mais il y a aussi tous les porteurs. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui.
Paradoxalement, aujourd'hui, la grande presse ne s'intéresse presque plus aux alpinistes. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de monde à vouloir gravir ces sommets.
For a cold, white world. A world that is all up and up.
Petit mélange d'archives, des archives, des actualités de la RTF de 1972. Les membres d'une expédition française partaient à la conquête du Pumori en Himalaya, se mettent plus de 7000 mètres. C'est un exploit assez rare, très rare même à l'époque. Et puis une archive plus récente, celle de 2005, un reportage où nous disait combien les ascensions des monts himalayens se sont multipliées ces dernières années. Alors pour mieux comprendre ces enjeux du tourisme des neiges, il faut rappeler peut-être que l'alpinisme et les sports de montagne sont apparus sur les cimes des montagnes d'Europe occidentale à la fin du 19e, développés à l'initiative d'abord de la bourgeoisie, des classes sociales disons les plus aisées. Le ski, l'alpinisme se sont démocratisés au fur et à mesure tout au long du 20e siècle jusqu'à l'explosion du tourisme des neiges associé au modèle des grandes stations de ski à partir des années 60 dans les pays occidentaux. On parlera de cette pratique du ski, des sports d'hiver dans deux pays d'Asie emblématiques d'une certaine diffusion de ces pratiques occidentales. La Chine d'abord avec Benjamin Tonnet et puis le Japon avec Jean-François Sabouret. Depuis combien de temps pratique-t-on les sports dans ces deux géants de l'Asie? Avec quelles habitudes? Quelles différences avec la pratique que nous connaissons peut-être ici en Europe? Et puis c'est peut-être surtout l'alpinisme qui va nous occuper ce matin puisqu'on va parler de l'ascension du mont Everest dans l'Himalaya, 8848 mètres d'altitude. Ce mont Everest fascine les alpinistes européens, mais pas seulement, en tout cas européens depuis le début du 20e siècle. C'est seulement en 1953 que la montagne est vaincue pour la première fois. Ces dernières décennies ont marqué une relative démocratisation de cette ascension, même s'il faudra nuancer peut-être cette assertion qui est tentée par plusieurs centaines d'alpinistes chaque année. Toutes les nationalités sont représentées, le Brésil, le Bangladesh, les profils sont de plus en plus variés, des étudiants, des retraités. Alors comment comprendre cette tendance et au-delà peut-être du cas de l'Everest, le succès croissant des sports de montagne dit risqués que vient chercher le public à plusieurs milliers de mètres d'altitude? Ce goût du risque et des sommets existe-t-il dans toutes les cultures? On va évoquer toutes ces questions et pour en parler, un invité depuis Lyon, Éric Boutroy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Éric Boutroy. Vous êtes anthropologue d'abord, j'indique. Vous enseignez les sciences sociales et le management du sport à l'UFR STAPS de l'Université Lyon 1. Votre laboratoire, c'est le CRIS, le Centre de Recherche et d'Innovation sur le Sport. Vous avez travaillé sur un certain nombre de terrains. On va parler notamment de l'Himalaya. On parlera peut-être également de l'Iran, si on arrive à trouver le temps. Mais peut-être avant d'évoquer cet Himalaya, justement, première chose, ces sports d'hiver, ces pratiques de la montagne, c'est un bel objet, en fait, pour qui s'intéresse. Et c'est le cas ici dans Culture Monde, à tous les phénomènes de mondialisation et à tous ses effets.
Assurément, c'est une très belle introduction et une belle perche que vous me lancez, à savoir que deux siècles d'histoire de l'alpinisme, par exemple, mais qui va de pair avec l'invention aussi du ski par les mêmes classes d'élite de la haute bourgeoisie aristocratie anglaise au départ, française ensuite. Ça commence donc il y a 200 ans. Dans la vieille Europe, pourrait-on dire. Et par définition, ces activités-là ont été des activités diffusées, c'est-à-dire qu'on se déplaçait dans des montagnes ailleurs, parfois dans le même pays, hein, les Français, mais on allait à la rencontre de populations de montagnes qu'on ne croisait pas habituellement. Et donc, on a eu des situations de frottement dès le début de cette activité. Elle ne s'est pas inventée sur son propre terrain de jeu. Et de fait, toute l'histoire de l'alpinisme, si l'on resserre là-dessus, va être l'histoire d'une diffusion contrastée, parce que à la fois des montagnes, il y en a partout à travers le monde, mais ce ne sont pas les mêmes montagnes. Et puis contrastée parce que selon les espaces culturels dans lesquels on va arriver, à la fois, il ne va pas y avoir les mêmes relations avec, au départ, les populations locales, puis quand elles vont s'en saisir, les propres touristes des pays réceptifs. On peut voir ça au Japon, par exemple, aujourd'hui avec la Chine, on en parlera tout à l'heure, en Amérique du Sud aussi. Et puis, on va avoir aussi cet effet de diffusion contrastée parce que quand l'alpinisme va être approprié par des nouvelles nations, des nouvelles populations, on va pouvoir avoir ces effets classiques dont vous parlez souvent, hein, d'acclimatation, d'appropriation différenciée de certains traits de l'alpinisme, manière de grimper, type de choix de montagne, etc.
Eh bien, écoutez, on va voir ça justement. Alors, vous savez peut-être, Éric Boutroy, que Radio France a 50 ans, ici c'est l'effervescence, hein, quand Radio France ouvre ses portes, ça fait déjà 10 ans. Qu'on a gravi enfin l'Everest. En effet, c'était en 1953, le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay atteignaient le sommet. Depuis, ce sont des milliers, on parle de 4000 personnes qui se seraient lancées sur leurs traces.
Hi, I'm Wasfi Nazreen. I'm from Bangladesh and my country just turned 40 years in 2011. I'm climbing the highest point of every continent in celebration of women's progress in Bangladesh and I hope you can join us. Find more on the campaign at bdon7summits.org. You can also follow us at Twitter and Facebook. I hope I can count on your support to help us make history.
Et cette voix que vous entendiez, c'était celle de Wasfia Nazreen, qui est une femme qui, à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh, en décembre 71, s'était lancée dans une série d'ascensions, et notamment l'ascension, bien sûr, de l'Everest. Elle a été la deuxième femme bangladaise en mai 2012 à réaliser l'exploit. C'est quelque chose, vraiment, cette ascension, en particulier de l'Everest, qui relève de l'exploit sportif, de l'exploit humain. On cherche à se dépasser, à créer des records. Si on regarde juste cette année, j'ai vu plusieurs records tomber. L'homme le plus âgé à être monté sur le toit du monde, c'est un Japonais, octogénaire. La première femme à avoir vaincu le sommet deux fois dans la même saison, c'est népalaise. Et puis, une unijambiste aussi indienne. Comment comprendre ce goût, au fond, de l'exploit, ce goût de l'exploit à gravir ces sommets himalayens, Éric Boutroy?
Alors, ce qu'il faut tout de suite repréciser, puis on refocusera ensuite sur l'Everest, hein, c'est que l'Everest a une place vraiment à part dans les ascensions himalayennes et dans l'alpinisme en général, à l'instar d'ailleurs du Mont Blanc sans doute pour les Alpes, c'est-à-dire qu'il concentre une attention, parce que c'est le culmen terrestre, il concentre les envies jusqu'à attirer beaucoup de gens qui au départ ont peu à voir avec l'alpinisme. Et donc il concentre vraiment des choses assez particulières. Donc on va s'y intéresser, mais on se rappellera aussi que l'alpinisme en Himalaya ou sur d'autres massifs correspond aussi des fois à des pratiques un petit peu différentes.
Mais disons-le tout de suite, Éric Boutroy, parce qu'on va y revenir, mais disons-le tout de suite, il est aussi particulier, bien sûr parce que c'est le plus haut, mais aussi parce que c'est peut-être le plus dangereux. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau, par exemple concernant l'Everest, quand on dit qu'au-delà des 8000 mètres, on est dans la zone de la mort. on est dans la zone la plus dangereuse. Et en effet, voilà une différence. C'est pas seulement parce que c'est le plus haut, c'est parce que aussi, au-delà d'un certain seuil, on arrive à des niveaux où les taux de mortalité augmentent considérablement. C'est aussi ça.
Oui, assurément. Mais de fait, par exemple, quand on s'amuse à comparer, peut-on parler de s'amuser, ce qui se passe sur l'Everest avec ce qui se passe sur le K2, qui est juste le deuxième sommet le plus haut de la Terre, on se rend compte d'abord que la fréquentation n'a absolument rien à voir pour le K2, et que finalement, la dangerosité objective, pourrait-on dire, est beaucoup plus grande sur le K2 que sur l'Everest. Alors, parce que il y a des propriétés, à cette montagne, le K2, qui la rend plus dangereuse peut-être, mais aussi parce qu'il y a une forme de relative démocratisation, en tout cas de relative massification de la fréquentation de l'Everest. Aujourd'hui, il y a toute une série d'aménagements, d'encadrements, de personnel, de cordes mises en place, etc., qui le rendent plus accessible et qui peut-être baissent un peu sa taille. Il reste objectivement très dangereux. Alors, le témoignage de cette jeune Bangladaise est intéressant parce que ce qu'elle disait, que vos auditeurs ont entendu, elle parlait non seulement de conquérir l'Everest, mais les Seven Summits. Et les Seven Summits, c'est ce qu'on appelle le peak bagging. Pour les Américains notamment qui ont inventé ça. Et c'est donc aller chercher justement les sommets les plus hauts de chaque continent. Celui qui dépasse de tous, c'est bien l'Everest. Et on a cette logique de l'exploit, on retrouve cet ingrédient qui est aujourd'hui relativement partagé dans beaucoup de pays du monde qui peuvent se le permettre, rappelons-le, à savoir cette coïncidence de l'élévation sur le plus haut sommet qui coïncide avec une distinction sociale. Qui coïncide avec la valeur de l'exploit réel, hein, quel que soit le niveau, même sur une voie normale, la valeur d'un exploit réalisé par un individu souvent encadré. Et cet exploit est rendu extrêmement marqué parce qu'on a là, en effet, coïncidence sur l'Everest de l'engagement d'une altitude extrême avec toute une mythologie de la zone de la mort au-delà de 8000 mètres, les réalités d'efforts et d'épreuves très grandes qu'il faut subir ou affronter pour monter, même pour des sportifs, surtout pour des sportifs ordinaires, ce que sont aujourd'hui la majorité des touristes des cimes qui fréquentent l'Everest. Donc on a comme ça tous ces éléments qui s'agglomèrent, et puis un peu de dimension technique, même si sur les voies normales, elles sont réduites.
Qui sont, Éric Boutrois, justement, ces touristes himalayens? Qui vient pratiquer l'Everest et puis les sommets de l'Himalaya en général? Est-ce que vous disiez que c'est assez bien partagé par tous les pays. C'est quoi les pays d'origine des personnes qui viennent gravir l'Everest et, plus modestement, taquiner un peu les cimes sans forcément gravir le plus haut de tous?
Alors, je me serais sans doute mal exprimé si je disais que tout le monde y va, parce qu'en effet, on se rend compte qu'il y a une géopolitique ou en tout cas un marquage très net. Ce sont d'abord les nations les plus avancées qui produisent les gens, qui sont capables de dépenser les fortunes que coûte l'ascension de l'Everest, hein, 50 000, 60 000 euros pour passer 2 mois de siège sur cette montagne-là.
Donc européen, américain.
On est européen, nord-américain, et puis ensuite, toute une proportion de gens, hein, d'élite ou de gens plutôt bien dotés.
Donc est-ce qu'on voit par exemple émerger, quand on parle toujours des émergents, des fameux BRIC, etc., est-ce qu'on peut lire finalement l'émergence de ces pays-là à travers le profil des gens qui vont gravir l'Everest?
Oui, on retrouve ces éléments-là, ouais. On les retrouve par deux biais, c'est-à-dire à la fois, il y a le premier niveau, c'est la perdurance des effets de nationalisme qu'on a connus avec la soi-disant conquête, hein, des premiers 8000, à l'époque dans des expéditions nationales venues plutôt d'Europe, financées par les États avec beaucoup de moyens. C'était les premières vignettes sonores que vous avez proposées. Bon, on va dire pour nos nations occidentales, ce marquage nationaliste est beaucoup moins prégnant aujourd'hui, quoique il ressurgit parfois. Et donc, on va voir un premier effet des nations émergentes qui rentrent, en gros, qui achètent leur ticket d'entrée en finançant des grosses expéditions qui vont permettre de mettre les premiers Iraniens au sommet de l'Everest. On va être en 98, par exemple. Et donc là, on sent qu'il y a encore l'État qui est derrière. Et on va voir apparaître un certain nombre de pays comme ceux-là qui achètent leur ticket d'entrée dans les grandes nations avancées. Et puis le deuxième effet, c'est ensuite quand émergent des classes qui ont les moyens et l'envie. C'est-à-dire, parce que c'est quand même... Il faut se rappeler que c'est un geste très absurde. Hein. C'était Lionel Terray qui parlait des conquérants de l'inutile. Cette belle expression nous rappelle bien que au départ, il n'y a pas grand-chose à retirer de monter et d'aller essayer de ne pas mourir au sommet de ces montagnes, même si on en ramène du prestige, des enjeux symboliques très forts. Donc il faut que ce soit recodé culturellement et acceptable. Et donc là, on voit qu'il y a des effets de nation. La Corée en est emblématique, par exemple. La Corée du Sud est devenue une nation alpinistique de premier rang. Et cette apparition-là a largement accompagné le développement économique de la nation. La Chine aujourd'hui est marquée par ça. Le Japon en est extrêmement emblématique beaucoup plus tôt, hein, dans notre XXe siècle. Donc vous avez raison, on voit les émergents qui arrivent. L'Inde particulièrement aussi, j'y pense.
Est-ce qu'on peut parler, Éric Boutroy, de démocratisation de la pratique? Est-ce que l'himalayisme est plus démocratique? Est-ce que ça s'est massifié? Est-ce que, j'utilise les deux mots, évidemment, il y a une nuance entre les deux. Quel terme il faut utiliser, quoi?
Alors la démocratisation, je pense que ça serait en fait excessif, ou alors elle est vraiment très très relative, à savoir que compte tenu à la fois des enjeux financiers, mais aussi de temps dont il faut disposer pour pouvoir partir des semaines sur ces montagnes-là, quand on regarde la composition sociale des gens qui font camp de ces montagnes, on reste globalement dans ce que l'on voit aussi parce que les population mère, simplement les alpinistes en général, se recrutent socialement, et ça c'est les travaux d'un collègue, Brice Lefebvre, de mon laboratoire, qui l'ont bien montré dans l'arc alpin, autour de Chamonix, plutôt dans les classes les mieux dotées économiquement et culturellement. Mmh. On retrouve encore ça aujourd'hui. Malgré tout, ça se nuance un petit peu, à l'instar de la diffusion de beaucoup de diffusion sociale, cette fois, de beaucoup de loisirs. On retrouve quand même, hein, dans les contre-exemples aussi, dans la diversification, des gens qui viennent de milieux différents, soit parce qu'ils ont des appuis. Alors, par exemple, en Iran, on va trouver ça, dans un cas que je connais, avec l'université, des fédérations, des États qui vont financer, pousser pour rendre accessibles certaines ascensions, soit parce que les gens, parce que le prix en vaut la chandelle, vont sacrifier, et ça, c'est à l'instar des loisirs contemporains, pour s'accomplir, pour se dépasser, parce qu'il y a aujourd'hui cette injonction sociale, hein, individualiste à l'autoréalisation, vont être capables de casser la tirelire, pourrait-on dire, et au bout de 3, 4, 5 ans d'économie, partir accomplir leurs rêves au bout du monde.
Vous parlez, allez-y, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé.
Et donc voilà, j'ai rencontré, interviewé des employés, des ouvriers, un apiculteur qui, voilà, à un moment donné, vendent tout et partent sur l'Everest ou sur d'autres montagnes. Mmh. On retrouve ça aussi sur d'autres nations.
Vous parlez de sacrifices, il y en a d'autres qui font des sacrifices, c'est ceux quand même qui accompagnent justement tous ces touristes, parce qu'ils sont encore indispensables, ces fameux guides népalais, les Sherpas. Vous dites dans votre article qu'ils détestent faire de la haute montagne, le plus souvent en tout cas.
En tout cas, le plus souvent, et derrière les images d'Épinal, par exemple, des Sherpas, sachant que en fait, l'ethnie Sherpa ne fournit qu'un petit contingent des gens qui accompagnent ces expéditions sur les hautes montagnes en Himalaya. Et puis, que là, on va parler du cas népalais, mais que ce sont d'autres ethnies, d'autres groupes que l'on va retrouver en Inde, au Pakistan, sur les versants chinois. Oui, là, pour la majorité d'entre eux, c'est un travail. C'est un travail qui est intéressant parce que bien payé, proportionnellement à ce que l'on peut gagner en moyenne sur d'autres types de métiers, notamment du portage, qui est une activité traditionnelle, portage commercial, par exemple, dans toutes ces montagnes-là. Pour autant, il n'y a aucun... Ça n'a aucun sens pour eux, en dehors d'une fonction salariée.
Le seul sens que ça peut avoir, c'est en gros de le faire pour vous expliquer, vous donner des exemples, en gros pour agrandir sa maison, pour payer les études des gamins. C'est ça la motivation, en fait.
C'est d'abord ça, en tout cas, pour beaucoup d'entre eux. Et puis, ça va être une motivation qui est d'ordre économique, dans lequel tout ce codage esthétique, symbolique de la montagne comme digne d'être grimpé, cette montagne bonne à penser, elle a un tout autre sens pour la majorité des ethnies qui accompagnent ces expéditions-là. Mmh. Là-dessus, je renvoie d'ailleurs aux très beaux travaux d'Isabelle Saccaro, une géographe qui a travaillé sur les porteurs du Népal. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, on a une vraie différence, un vrai gap. Pour autant, les choses aussi se nuancent là aussi, c'est-à-dire qu'on voit apparaître progressivement une certaine forme d'appropriation, c'est-à-dire que l'encodage sportif cette valeur de la montagne en soi digne d'être grimpée. Voilà, certains groupes qui sont plus proches et depuis plus longtemps des Occidentaux commencent à se les approprier, même si d'abord c'est sous l'angle d'une culture professionnelle. À ce titre, il est intéressant de voir que, par exemple, Sunar Gurung, qui n'est pas de l'ethnie Sherpa, d'ailleurs, de l'ethnie Gurung, hein, un Népalais, va être en 2008 le premier guide de haute montagne avec formé en France, à l'ENSA, l'École nationale de ski d'alpinisme. Donc, il n'avait pas moyen de se former comme guide de haute montagne dans les standards internationaux au Népal. Il va chercher ça, soutenu par toute une série d'associations en France. Et il va devenir un vecteur de diffusion au Népal. Il va devenir un promoteur suite à d'autres choses engagées, d'initiatives engagées auparavant, aujourd'hui, de la formation de véritables, je mets des guillemets autour, guides de haute montagne aux standards internationaux. Et donc on voit aujourd'hui, par exemple au Népal, des associations qui se mettent en place pour soutenir cette démarche-là. Les associations de montagne népalaises sont rentrées au sein, ont été associées depuis 2012, au sein de l'Union internationale des associations de guides de montagne. Ce qui veut dire qu'ils vont devenir capables de former des guides de haute montagne aux standards internationaux. Et donc on voit progressivement émerger une élite professionnelle, pourrait-on dire, aux standards internationaux, qui va avoir la capacité non seulement d'encadrer et d'être reconnue avec tous les standards en Himalaya, mais derrière de pouvoir venir encadrer dans les Alpes françaises, retour de bâton, pourrait-on dire, juste retour des choses.
Et c'est ce désir, au fond, de s'affranchir de certaines dépendances, dites-vous, des dépendances à la fois politiques et à la fois économiques. Il y a une chose, Éric Boutroy, que je note dans votre article qui m'a beaucoup intéressé. Vous dites, je vous cite, et puis on va voir comment on peut illustrer cette chose. On assiste au Népal à l'affermissement de traits culturels alpinistiques indigénisés. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, c'est là où ça devient, entre guillemets, amusant. Il est sûr que la valeur en soi de la montagne, elle est appropriée progressivement. Mais on voit que notamment les Sherpas d'altitude, alors je mets un petit S, c'est-à-dire que les Sherpas d'altitude, c'est une fonction, c'est-à-dire que ce sont les accompagnateurs qui font du portage, qui installent les cordes fixes, qui accompagnent les alpinistes dans les marges hautes de la montagne, qui peuvent être d'autres ethnies que de l'ethnie Sherpa. Donc ces Sherpas d'altitude avec un petit S vont sur les plus hauts sommets avec leurs clients. Au départ, ça n'a pas de sens autre que celui d'essayer de redescendre vivant avec un peu de richesse à rediffuser dans sa famille, ses milieux, son village, etc. Et puis, voilà, l'idée de faire une ascension par un itinéraire plus dur techniquement, plus austère, plus engagé, ça, ce que les Occidentaux vont inventer progressivement pour renouveler l'exploit, qui va être difficile à vendre et à comprendre, même d'ailleurs parfois en Occident, ça n'a pas grand sens pour eux. Par contre, c'est très indigénisé. On va voir que, parce qu'au départ, c'est une activité professionnelle, ils sont amenés à revenir régulièrement, on va voir que l'exploit va être recodé chez eux, mais cette fois lié non plus à une ascension difficile, mais une ascension répétée. Et donc là, on ne va pas mesurer la difficulté d'itinéraire, mais le record de nombre d'ascensions. Et donc on a là des guides, des Sherpas d'altitude qui vont détenir des records. Alors j'ai peut-être perdu le compte, hein. J'ai toujours en tête Apa Sherpa, qui avait dépassé, à mon sens, la vingtaine d'ascensions de l'Everest, qui est un héros national là-bas. Et comme ça, on voit cette espèce de collection, on retrouve reformuler le peak bagging, mais autrement. D'abord, on se rappellera, ils y montent parce qu'ils y travaillent, mais parce qu'ils vont multiplier les ascensions de X sommets de 8000 mètres. Et ça, c'est recodé localement comme quelque chose d'héroïsant.
Toujours avec Éric Boutroy, sociologie du tourisme des neiges, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde, il est 11h passé de 23 minutes. On va rester dans cette région-là, on va aller du côté des stations de ski en Chine.
C'est super excitant d'aller là-haut et de redescendre.
Moi, j'arrête pas de tomber. Du coup, je redescends à pied.
Mais ainsi va la Chine, on ne se lasse jamais d'apprendre. Sur le tas. Et en masse. La grande station de Huaibei a un petit air de station alpine en pleine vacances scolaires. C'est un grenoblois installé depuis 10 ans en Chine qui a conçu cette station. Il s'appelle Paul Bojarski. Il travaille depuis 10 ans pour de gros investisseurs chinois comme Monsieur Wang, qui veulent créer des stations de sport d'hiver.
Aujourd'hui, les pistes de ski à Pékin sont trop petites pour pouvoir fournir. Donc il y a de l'expansion possible et rentable à faire, beaucoup.
So you can easily tu pourrais facilement doubler ou tripler le nombre de skieurs sur la même piste.
Et oui, les Français aussi hein, participent à ce développement du ski. Extrait d'un reportage de TF1, c'était en 2012. On va retrouver tout de suite Benjamin Tonnet par téléphone, qui est géographe à l'Université d'Angers, qui est auteur, je l'indique, entre autres, de Le tourisme intérieur chinois, reflet des mutations de la Chine. Ce ski, Benjamin Tonnet, il commence vraiment, vraiment à se développer. Hein. On a plusieurs stations, là, les Yabouli, par exemple, qui est la première, la plus fréquentée de la Chine. On est dans le nord, du côté de la Mandchourie. Il y a la station Nanshan, la plus grande station, toujours dans la même région, dans le nord. Mais on en a aussi dans le sud, à Shenangjia, de plus en plus de sites sont équipés pour le ski. On voit très clairement que la pratique du ski est en train de se développer très sérieusement en Chine, Benjamin Tonnet.
Tout à fait. Alors, avec quelques petites recherches, j'ai pu constater qu'avant 2000, il n'y avait que deux stations. Enfin, deux provinces où il y avait des stations, les provinces du nord-est de la Chine, provinces du Heilongjiang et du Jilin. Et la plus ancienne station, c'est celle de Yabouli, où s'est installé le Club Med en 2010. Et à partir de 2000, on a vraiment une progression très importante pour arriver en 2006 à 200 sites de ski. Alors par 200 sites, j'entends, comme c'est indiqué dans l'atlas des montagnes de Xavier Bernier et Christophe Gauchon, des sites qui sont équipés pour la pratique, mais ne sont pas forcément, des stations au sens stricto sensu, comme des stations dans les Alpes. C'est simplement quelques pistes créées de manière artificielle. Et on constate qu'il y a une très forte importance de ces sites. Alors après, si vous voulez quelques chiffres, j'ai noté que 65% des stations se situent dans le nord-est de la Chine et elles se situent toutes à proximité des grands centres urbains. C'est-à-dire que dans la province du nord-est du Heilongjiang, on a 40% des stations où se trouve Yabouli, province un petit peu plus au sud de Jilin, 10,4%, Liaoning, on a Shenyang, la ville qui produit les autos Volkswagen notamment, 5,7%, et autour de Pékin, un peu plus de 8%. Donc on concentre vraiment toutes ces stations dans le nord-est de la Chine, et vous avez évoqué le sud, bien évidemment, mais on oublie aussi souvent le nord-ouest de la Chine, notamment la province du Xinjiang et la ville d'Urumqi, autour de laquelle se concentre un certain nombre de stations. Donc oui, aujourd'hui, ça devient une pratique assez importante, assez répandue dans la société chinoise.
Et qui risque de continuer, évidemment, de s'accélérer, puisque vous le disiez, hein, ce Club Med qui ouvre son premier club de montagne à Yabouli, qui est, je crois, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, la plus grande station de ski chinoise à l'heure actuelle. Ça montre, évidemment, qu'on mise sur le développement de ce sport en Chine. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres de skieurs chinois aujourd'hui. On dit entre 5 et 10, c'est pas très clair. En tout cas, très clairement, on prévoit d'arriver à aller quasiment 20 millions d'ici 2015. C'est dire si on mise sur cette pratique du ski.
Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un organisme aujourd'hui, un organisme gouvernemental qui prend en charge le développement des stations de ski, ce qui n'était pas le cas au début. On était plus sur des initiatives locales, presque privées, avec un appel à des étrangers. Aujourd'hui, c'est le gouvernement central à Pékin qui reprend la main pour le développement de ces stations. Alors après,
mais ça s'illustre comment ça, Benjamin Tonnet? Comment est-ce que justement le gouvernement soutient le tourisme de montagne?
Eh bien, avec une forte promotion, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui aujourd'hui a un site internet, qui a des actions chiffrées, c'est-à-dire qu'il y a un soutien financier au développement des stations, et on voit que petit à petit le nombre de skieurs grandit. Vous évoquiez entre 5 et 10 millions, bon, on en est à peu près là, on en est à, je dirais, à, les derniers chiffres que j'ai, c'est 8 millions, et on table évidemment sur 10, 12 dans les 3 prochaines années.
Est-ce que le Parti communiste chinois organise, j'allais dire, des vacances à la montagne pour, je ne sais pas comment le dire, mais disons, ces bons éléments pour récompenser un peu les gens? Est-ce que c'est des choses qui se font? Parce que c'est je crois, des pratiques qui se faisaient pour la plage. On en avait parlé ensemble, Benjamin Tonnet. Est-ce qu'on retrouve la même chose avec la montagne?
Alors, à ma connaissance, on ne retrouve pas la même chose avec la montagne. C'est-à-dire que vous avez raison, dans les années fin 70, début des années 1980, on envoyait les ouvriers méritants à la plage, notamment, encore une fois, à proximité de Pékin, à Bédaïre. Mais là, on ne retrouve pas du tout la même chose à la montagne et pour le ski. À l'inverse, ce que l'on va trouver, ce sont des classes extrêmement aisées qui vont se rendre, alors, je dirais, sur des mobilités de faible amplitude. On est toujours à 200, 300 kilomètres, ce qui est rien du tout à l'échelle de la Chine continentale, d'une grande ville, que ce soit Pékin, Shenyang, Jilin, Changchun, Harbin, etc. Et ce sont des gens qui vont dépenser beaucoup. C'est-à-dire que les tarifs sont socialement distinctifs. On est à plus de 200 yuan pour 2 heures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tarifs pour des 2 heures, des demi-journées, ce qu'on retrouve moins, je dirais, dans des stations en Europe, par exemple.
Donc, c'est là, les formats de séjour très courts, vous voulez dire, c'est ça ?
Et voilà, on est sur des séjours qui sont très courts. Parce qu'on est aussi sur des gens qui sont encore débutants. Et dans le top 10 là, des stations établies par l'organisme dont je vous parlais tout à l'heure, le China Huashui, on retrouve ces indications. Voilà, cette station, elle est bien parce qu'elle est adaptée aux débutants et, je dirais, au niveau intermédiaire. On retrouve très rarement des dimensions ou des domaines skiables un petit peu hors normes, comme ça pourrait être sur la Tarentaise en Europe.
On comprend très bien, Benjamin Tonnet, que pour l'instant, en tout cas, c'est toujours le cas, ce ski, il est quand même réservé aux classes très favorisées. C'est quoi le profil type du skieur chinois ? C'est celui qui a réussi en affaires, qui, pour se détendre, part le week-end à 3 heures de chez lui, skier une demi-journée. Racontez-moi, qu'est-ce qu'on va croiser sur la piste de ski ?
C'est exactement ça. Ce sont des jeunes actifs qui ont moins de 40 ans, qui sont assez aisés. C'est un euphémisme. Bien évidemment, alors qui vont être soit en couple et qui n'ont pas encore d'enfants, soit qui ont un jeune enfant, c'est-à-dire qui a moins de 10 ans. Donc on retrouve ces gens qui ont 30, 35 ans, un tout petit peu moins de 40 ans, qui vont découvrir le ski. C'est pour ça qu'on n'a pas des domaines skiables très importants avec différents niveaux de pistes, mais on va avoir 4, 5, 6, 7 pistes au maximum, souvent artificielles.
Et vous croyez une massification de ce ski en Chine ?
Je dirais, moi je pense que j'y crois dans le sens où il y a quelques années on s'interrogeait sur l'opportunité de développement de pratiques, de loisirs plus que de tourisme, et voire de repos. Au moment de la création du Club Med à Yabouli, on voit qu'aujourd'hui ça fonctionne, de plus en plus de gens s'y rendent, les stations... Eh bien, on continue à en ouvrir, la fréquentation augmente, et on en ouvre aussi dans le sud de la Chine, là où on a des hauts sommets, je pense notamment à la ville de Chengdu, basée sur le contrefort de l'Himalaya, qui elle aussi voit la fréquentation de sa principale station augmenter. Donc, au nord, ça semblait plus évident, au sud aussi, ça se développe. Donc, a priori, je ne vois pas l'entrave. Après, de là à prédire jusqu'où ira la fréquentation, c'est-à-dire la quantifier, c'est extrêmement difficile.
Toute dernière question, Benjamin Tonnet. Oui. Pourquoi est-ce qu'on va au ski ? Qu'est-ce qu'on recherche là-bas ? Est-ce que c'est, je me souviens très bien de cette formule que vous aviez utilisée pour parler de la plage une fois encore, est-ce que c'est pour gagner de la face ? Est-ce que c'est pour se faire prendre en photo sur les pistes de ski, soit sur ses spatules, soit sur son surf, et puis pour ensuite, pendant la semaine, montrer sa photo à tous ses collègues ? C'est ça les motivations ?
Je pense qu'aujourd'hui, en Chine, on est une société très ostentatoire, où il faut montrer... je dirais, épater le plus possible de collègues, d'amis, etc. Je le disais, je le redis, le ski en fait partie, majoritairement. Je pense que cette pratique, elle est là pour montrer son capital économique et l'étaler devant son réseau, mais aussi de plus en plus pour découvrir ce nouveau loisir sportif qui n'existait pas autrefois et pour se reposer à la montagne pendant un jour ou deux, le temps d'un week-end.
Je précise que Benjamin Tonnet, vous republierez très bientôt un ouvrage sur le tourisme chinois dans lequel justement vous inclurez cette pratique du ski du côté de la Chine. On retrouve Éric Boutrois du côté de Lyon qui est avec nous en duplex. Que vous inspire, Éric Boutrois, cette pratique du ski chinois ?
Elle apparaît presque comme une évidence aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a encore peu. On se rappellera que cette dimension de l'ostentation qui est évoquée là, elle concerne ces franges très, très, très bien dotées. Beaucoup d'entre eux vont d'abord partir, pas du tout dans le tourisme de montagne, qui n'a pas grand sens au départ. Hein. Ils sont dans les villes, c'est les belles voitures, c'est toute cette richesse-là. Mais la Chine étant tellement grande, on va tout de suite réfléchir en dizaines de millions de personnes qui vont être en capacité de fréquenter ces montagnes. Alors j'ai quelques autres chiffres. Des chiffres que j'ai lus, on évoque 10% de Chinois dans certaines régions qui font de la randonnée. La China Mountaineering Association recense aujourd'hui 2000 clubs d'alpinisme. Donc on voit que le pouls de la Chine s'emballe sur la fréquentation des montagnes et que voilà, le ski, l'alpinisme, la randonnée, à un moment donné, deviennent justement des points d'accroche pour ces franges ces élites économiques, on pourrait dire, qui viennent peut-être se greffer, pardon, sur des fréquentations. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des fréquentations traditionnelles de la montagne en Chine qui sont plutôt contemplatives, liées à une certaine conception de la nature, ou qui sont, et vous en parlerez sans doute demain, religieuses.
Et on en parlera donc, demain, ce sera notre sujet. Voilà. Ce sera notre sujet. Avant d'aller du côté du Japon pour voir aussi comment est-ce qu'on pratique le ski, petit détour du côté de l'Iran, parce que vous avez consacré un article sur l'escalade en Iran. C'est une pratique, vous dites, qui est en plein essor. Je voudrais comprendre qui pratique cette escalade. C'est quoi le profil? Parce que vous évoquez par exemple les figures d'un couple de trentenaires, Hamid et Mariam.
Oui. Alors, ils sont assez emblématiques de ces jeunes Iraniens et jeunes Iraniennes. Donc là, on est à Téhéran, hein, immense ville de 7 millions d'habitants, polluée, comme on ne peut pas l'imaginer, bruyante, enfermée, etc., dans le régime iranien sur lequel tout le monde a son avis et ses représentations. Et puis cette ville de Téhéran bute sur le massif de l'Alborz, le mont Toshal qui culmine à quasi 4000 mètres. Les montagnes sont aux portes de la ville. Et pour qui ne le connaît pas au départ, on peut être surpris. L'escalade et l'alpinisme sont aujourd'hui des loisirs, et puis plus largement la randonnée et l'excursionnisme, très développé en fait en Iran, plutôt dans les franges cultivées. Alors cette fois-ci, c'est pas forcément les mieux dotés économiquement, mais en tout cas cultivées de la jeunesse iranienne. Pas seulement parce que c'est une pratique ancienne, mais qui se développe notablement aujourd'hui. Et on va trouver comme ça toute une population souvent passée par les bancs de l'université. Mais n'oublions pas qu'en Iran, l'université est aujourd'hui extrêmement démocratisée, en particulier pour les femmes, hein, parce que en fait, plus d'un étudiant sur deux est une femme en Iran. Paradoxe de la société iranienne. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a
cultivée,
énormément...
certes, Eric Boutroit, mais quand même assez peu religieuse. En fait, la montagne, elle est un lieu de convivialité, de décontraction, où quand même la loi islamique est moins prégnante. Et c'est aussi ça qu'on va chercher.
C'est alors, je dirais pas surtout ça, mais c'est...
J'ai dit aussi ça.
Ouais, mais presque, on pourrait dire surtout ça au départ, à savoir que dans une société extrêmement policée qui est coincée, hein, sous le régime islamique, les Iraniens ont su inventer toute une série de chemins de traverse qui permettent de déjouer et de retrouver une forme de liberté qu'on a dans l'enceinte, dans la sphère privée notamment. Et les sphères de la montagne, les falaises d'escalade, les parois alpinistiques, les circuits de randonnée un peu éloignés des zones urbaines, deviennent des espaces de débridement, des espaces de relâchement du contrôle et des normes.
Et est-ce qu'on peut aller plus loin, Eric Boutroit, et dire que faire de l'escalade en Iran, c'est aussi, disons, adhérer à un style de vie moderne, occidental même?
Absolument, absolument. Même si, encore une fois, on a des choses un peu plus contrastées avec des groupes religieux qui vont utiliser les ascensions à des fins patriotiques, à des fins d'édification. Hein, on fait brûler des drapeaux américains au sommet de certaines montagnes. Donc on retrouve cette symbolique-là. Mais globalement, en effet, c'est cette jeunesse plutôt urbaine, plutôt cultivée, trouve dans l'escalade, l'alpinisme, une activité qui est à l'image aussi, quelque part, de leur ouverture à des références mondialisées, libéralisation des mœurs, individualisation de la société, avec voilà, les loisirs comme facteur d'autoréalisation et contestation, une contestation du régime en acte.
Et alors comment le régime justement voit ça? Comment les autorités, par exemple les autorités sportives officielles, regardent cette discipline où en plus les hommes et les femmes se mélangent, voire même sont carrément égaux face à la paroi rocheuse, parce qu'évidemment il y a des femmes qui montent aussi bien, voire carrément beaucoup mieux que les hommes. Comment est-ce qu'ils perçoivent tout ça?
On a des choses un petit peu nuancées, c'est-à-dire que quand on est dans l'enceinte fédérale proprement dite, pour les compétitions, etc., le boisseau est toujours là. Et les femmes, je me rappelle de ces grimpeuses qui se plaignaient de devoir grimper avec un espèce de tchador arrangé quand elles sont en compétition internationale qui les empêche de voir les prises. Quand on a les entraînements sur les murs artificiels dans les villes, bien dans ces murs-là officiels, il y a des créneaux comme pour les piscines séparées hommes-femmes. Mais par contre, dès qu'on rentre dans les falaises naturelles, dès qu'on sort des activités organisées, qu'on est dans l'auto-organisée qui est la majorité, à partir de ce moment-là, les hommes et les femmes sont proches, se rencontrent, se touchent, on enlève les foulards, on se séduit, on peut s'embrasser en public, impensable dans un centre urbain. Et on va dire que le pouvoir par rapport à ça, ça varie selon les temps, hein, les régimes, les périodes, etc. Mais il y a une forme de tolérance feutrée, tant que ce n'est pas trop près et pas trop visible. Il y a un jeu de chat et de souris, que l'on retrouve aussi dans les stations de ski, d'ailleurs, soit dit en passant, notamment à Dizine, à proximité de Téhéran. Même si dans les stations de ski, plus marquées par l'urbain, le contrôle est plus marqué, hein, avec les milices, les basidjs qui contrôlent. Et donc, c'est un jeu de chat et de souris, dans lequel on tolère tant que cela n'est pas trop près.
Allez, Éric Boutroy, on reste dans les stations de ski, mais on va du côté du Japon. Zundoku Bushi, une reprise des Pink Martini. On va aller du côté du Japon, un Japon qui est un pays absolument idéal pour ce qui est, hein, puisque quasiment 70% du territoire est montagneux. Il neige beaucoup au Japon. On peut retrouver sur certaines pistes 10 mètres, 15 mètres de neige parfois. Bonjour Jean-François Sabouret.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, un grand spécialiste du Japon. Vous y avez vécu de longues années et puis auteur, je l'indique, pour ce qui est de votre dernier ouvrage, hein, Japon, la fabrique des futurs, c'était aux éditions du CNRS. Le Japon, c'est un pays où il y a beaucoup de stations. On dit que c'est le pays où il y a le plus de stations ski. On parle de 600 stations. C'est quand on regarde des stations plutôt petites, avec des équipements modernes et souvent surpeuplées. Petites, modernes, surpeuplées, finalement c'est à l'image du pays, Jean-François Sabouret.
Tout à fait, mais surpeuplé, sauf dans les montagnes, puisqu'on parle de montagnes aujourd'hui, le Japon est un pays vide. Quand je suis arrivé au Japon, je pensais qu'on s'était trompé d'île, parce que je ne voyais que des montagnes avec des forêts, c'était au mois d'avril, et 70% du Japon, c'est un pays de montagnes. Donc, l'hiver, c'est un pays de neige, ce qui veut dire que les Japonais, déjà, le quart de la population japonaise a accès vit au pied de la montagne. Donc ils vont faire du ski dans la journée et ils peuvent revenir le soir sans aucune difficulté. Il y a eu un pic du ski au Japon, c'était l'époque de la bulle économique, puisqu'il y a eu la population des skieurs en 93, c'était juste après la bulle économique, il y avait 18 millions de gens qui faisaient du ski, ce qui était énorme, donc ils parlent des classes moyennes, etc. En 2012-2013, il n'y en a plus que 6 millions, ça divisé par 3, mais il faut ajouter, maintenant, il y a une mode des snowboarders. 3 millions de snowboarders.
Ouais, la crise est passée par là quand même.
La crise est passée par là. Mmh. Il y avait, comme vous l'avez dit, là, il y a plus que 500, enfin entre 400 et 500 stations de ski, et il y en avait il y a 20 ans 800. Donc elles ont fermé. Au Japon, vous savez, c'est comme dans les commerces ou ailleurs, y compris les stations de ski. Quand ça marche pas, on plie boutique et on fait autre chose. Et donc là, mais
même quand on a fait des investissements énormes, parce que
j'aime beaucoup au Japon et malheureusement qui n'existe pas en France, je ne sais pas si on pourra fabriquer, c'est que les stations de ski sont couplées avec des onsen. Des sources chaudes, ce qui fait qu'on skie et ensuite après on va se
prélasser dans son bain thermal.
C'est le bonheur parfait sur la Terre.
Oui, évidemment, vous disiez la crise est passée par là, parce que peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est évidemment très cher de faire du ski au Japon. Alors, c'est peut-être pas si cher que ça, mais comme les gens louent tout, en fait, des skis aux gants, quand même, à l'arrivée, ça peut revenir un peu cher.
Ben, c'est cher, ça dépend. Si on skie en allant deux jours, deux ou trois nuitées, et qu'on descend dans un ryokan, qui est le type d'hôtel un peu chic, ça coûte cher. Mais si on va dans un minshuku, c'est-à-dire l'hôtel tout venant, du genre une étoile ou pas d'étoile du tout, on mange à la manière japonaise, ça c'est pas cher. Mais de plus en plus, ce que les entreprises de voyage proposent, ce sont des journées. On part le matin de très bonne heure et on part le soir très tard, voire même quand il fait nuit, les pistes sont éclairées et on fait du ski et on revient. Ce qui fait qu'on fait que du ski et puis il y a les transports bien évidemment. Donc beaucoup de jeunes partent le matin de bonne heure, on les voit sur la route et puis le soir, ils restent tard et ensuite ils rentrent très rapidement sur Tokyo pour être chez eux vers 1h du matin ou quelque chose comme cela.
Après avoir fait quand même son petit bain de source chaude quand même.
Pas cela. Il y en a qui le font. Généralement, le bain de source chaude, c'est quand on fait une nuit qu'on reste là-bas. Ouais. Et ça, si vous allez au Japon, je vous le conseille fortement.
À quoi ressemblent les stations, Jean-François Sabouret ? On est quand même loin des chalets savoyards, non ?
Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de commencer, ou le hasard, de commencer par une station de ski, puisque j'étais à Sapporo. Et Sapporo, il y a Niseko, là, il y a eu les Jeux Olympiques, mais c'est en grande banlieue de Sapporo. Mais à Sapporo, au bout de ma station de métro, de la ligne, je prenais mes skis sur l'épaule, et en métro, j'allais faire du ski 3h, 4h, et je rentrais chez moi. Donc, ce sont des pistes, comme vous l'avez dit, courtes, c'est de la petite montagne. Mais il y a de la neige à partir du mois de novembre. Il y a de la neige partout au Japon. Souvenez-vous des premières phrases de Kawabata et Yasunari, pays de neige. Donc c'était, on traverse un tunnel et c'était le pays de neige. Et du côté de la mer du Japon, c'est plusieurs mètres de neige qu'il y a. Parfois même, les gens doivent sortir par le premier étage.
Oui, on dit même qu'on y trouve les plus belles neiges du monde. On dit que sur l'île d'Hokkaido, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais on est là.
J'ai vécu 2 ans et demi.
À la pointe nord du Japon, on dit qu'on trouve la plus belle neige du monde, la plus belle poudreuse du monde. C'est ce que disait en tout cas un journaliste, j'ai lu ça il y a quelques mois dans le Figaro.
Ah bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste de ski et de neige pour pouvoir le dire, mais c'est vrai que la neige est très agréable dans le Hokkaido. Il neige souvent et dans Niigata, toute la côte occidentale du Japon, sur la mer du Japon, face à la Corée et à la Chine.
On a une image quand même, Jean-François Sabouret, de ces espaces de montagne au Japon, qui sont des espaces finalement très sacrés. Comment les gens perçoivent précisément le fait que des gens viennent y skier ? Est-ce que c'est pas vu comme un acte de profanation ?
Oh non. Enfin, les Japonais sont... C'est un des peuples qui évolue le plus rapidement, d'une part. Et puis, le sacré est à géométrie variable, c'est-à-dire que s'il y a un sanctuaire shinto, c'est souvent là qu'il y a des sanctuaires shinto dans la montagne, ça n'empêche pas les gens de skier et ils n'ont pas le sentiment de profaner quoi que ce soit. Dans l'histoire japonaise, les montagnes, c'était le lieu, parce qu'ils ont été en guerre pendant 500 ans quand même, après la période de Heian vers la fin du 11e siècle, jusqu'à l'arrivée de l'époque d'Edo, Tokugawa, là ils se sont battus, ils étaient sans arrêt en combat les uns avec les autres pour prendre le pouvoir et mettre la main sur la terre. Et donc ceux qui perdaient la main sur la terre, c'est-à-dire sur les rizières, la culture, les paysans, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient dans la montagne. Et c'est pourquoi dans la montagne, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu aussi de méditation, où les yamabushi, on va réfléchir, prier, etc. C'est le lieu aussi des esprits, mais c'est le lieu aussi où pendant les périodes de disette, on allait chasser le sanglier et le cerf. Mais comme c'est un pays qui est devenu bouddhiste à une certaine époque, on ne devait plus manger de viande, alors on attrapait des sangliers et on disait que c'était de la baleine de montagne.
On parlera évidemment demain de cette montagne comme lieu des esprits et des dieux. Éric Boutroy, vous êtes allé déjà au Japon skier, vous qui êtes un spécialiste?
Malheureusement, jamais. Je n'ai pas grimpé non plus des montagnes japonaises.
Vous avez vu, il faut y aller, parce qu'en croire ce journaliste du Figaro, c'est l'endroit, the place to be pour celui qui aime skier. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup Jean-François Sabouret.
Merci beaucoup.
D'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre ouvrage, c'est Japon, la fabrique des futurs, aux éditions du CNRS. Puis un grand merci à vous, Éric Boutroy, de nous avoir accompagnés dans dans cette matinée. Je rappelle, anthropologue, enseignant, vous enseignez les sciences sociales et le management du sport à l'UFR STAPS de l'Université Lyon 1. Sur cette musique népalaise qu'on se quitte, on se retrouvera demain et on ira, on restera peut-être un petit peu en tout cas du côté de l'Himalaya. Merci beaucoup à toute l'équipe de Culture Monde, Antoine Ulster, Christophe Payet, Salomé Vio, la technique Vincent René, mais aussi les techniciens qui ont assuré le duplex depuis Lyon, la réalisation c'est Doria Zénine.